Bonjour à tous, vous écoutez un podcast du Felipe, l'association du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, en compagnie de Marine Calmet de Wild Legal. Donc Wild Legal est une association qui s'engage pour la reconnaissance des droits de la nature et du crime d'écocide notamment, dans le but de faire évoluer le droit portant sur la prévention et la sanction des crimes environnementaux partout dans le monde. Donc Wild Legal aurait dû être présent au 18e Festival du Livre et de la Presse d'écologie, qui se tient chaque année et qui a dû être reporté en 2020 pour les raisons que l'on connaît. Donc le Festival du Felipe s'invite chez vous, en compagnie de Wild Legal, qu'on remercie pour avoir accepté de participer à ces discussions. Pendant ce podcast, nous allons notamment évoquer les nombreuses actions et programmes que vous développez, s'interroger sur le rôle du droit dans la crise écologique et parler de la publication de votre petit manuel des droits de la nature. Donc tout d'abord, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la démarche de Wild Legal ?
Bonjour et merci beaucoup au Felipe pour cette invitation à participer et présenter nos actions. Alors Wild Legal est un programme en fait qui a été conçu et créé en fin 2019. Il s'agit d'un constat qui est à l'origine de la création de cette association, c'est que il nous faut sur le terrain du soutien pour les associations écologiques qui se battent contre des grands projets polluants ou pour faire justement évoluer la situation sur le terrain pour mieux protéger la nature. Et donc le programme Wild Legal, c'est à la fois une école pour enseigner ces nouveaux concepts comme les droits de la nature, le crime d'écocide, les limites planétaires. Et en même temps, c'est un incubateur puisqu'il agit en fait aux côtés des associations sur le terrain pour prendre à bras-le-corps en fait les dossiers sur lesquels elles travaillent, sur lesquels elles militent et grâce au droit, faire émerger en fait de nouvelles procédures juridiques afin justement de pouvoir soit les encourager à aller en justice, soit enrichir en fait leur plaidoyer au soutien des droits de la nature. Et donc grâce aux étudiants qui suivent le programme de formation, nous formons en fait ces étudiants et puis nous catalysons en fait de nouvelles idées pour faire ressortir justement des potentielles nouvelles jurisprudences en matière de protection des droits de la nature.
Vous avez aussi publié, en plus de toutes ces actions, un petit manuel des droits de la nature pour former justement les lecteurs et lectrices à la défense des droits de la nature. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche et aussi comment avez-vous conçu ce manuel ?
Alors ce petit manuel, en fait, il faisait vraiment partie de la formation initiale en fait qu'on avait imaginée autour justement des droits de la nature, c'est-à-dire faire en sorte que le lecteur dans un petit ouvrage, puisse saisir vraiment l'ensemble des enjeux qui gravitent en fait autour de la reconnaissance des droits de la nature, c'est-à-dire à la fois la philosophie, les origines de ce mouvement, mais aussi les grands textes fondateurs, les grandes jurisprudences et les pays qui font déjà ou qui mettent déjà en place les droits de la nature dans leurs droits, soit dans leur constitution ou dans leurs lois ou dans leurs règlements, et qui font en sorte de faire avancer en fait les droits de la nature sur la scène internationale. Et grâce à ce petit manuel, l'idée était de donner une vision un peu panoramique de l'ensemble des progrès déjà acquis en fait en matière de droits de la nature pour que justement sur le terrain, nos lectrices et nos lecteurs puissent par analogie se dire voilà, quelles seraient les stratégies que nous pourrions mettre en place avec notre association pour nous aussi défendre les droits de la nature en France, en Europe ou à l'étranger. Et donc ce petit manuel, très rapide, il est vraiment une synthèse de tout ce qui se passe en ce moment dans ce mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature.
Et justement, dans cette même démarche, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre procès simulé autour de l'écocide et des bouts rouges en mer Méditerranée, qui est justement au cœur du terrain ?
Alors, voilà, l'association, elle accompagne, comme je vous disais, chaque année un nouveau procès. L'année dernière, nous avons travaillé sur le cas de la pollution au mercure et la destruction de l'environnement liée à l'orpaillage illégal en Amazonie française. Cette année, nous sommes en soutien à l'association ZEA, qui travaille sur le cas des bouts rouges en mer Méditerranée liés aux activités de l'entreprise Alteo. Et en fait, ce process simulé, donc, il a été réalisé grâce à la collecte de toutes les informations cumulées par l'association, les scientifiques et les autres experts qui travaillent sur ce sujet depuis de nombreuses années pour mettre en évidence, en fait, la situation écocidaire dans laquelle nous sommes, puisqu'il y a une destruction massive de l'environnement causée par cette activité industrielle depuis les années 60. Et donc l'objectif est, en accueillant des étudiants dans notre programme, de leur donner ce cas concret qu'ils devront traiter et qui nous permettra à nous, en tant qu'association, de fournir de nouveaux outils juridiques, de nouvelles réflexions à l'association accompagnée par nos soins et donc de aussi, d'une certaine façon, de démontrer par la pratique justement tous les enjeux que regroupe en fait la reconnaissance du crime d'écocide et ces nouveaux concepts liés au droit de la nature. Car quoi de mieux en fait finalement que de montrer très clairement les enjeux juridiques qu'apporterait en fait la reconnaissance du crime d'écocide en droit français par rapport à la situation actuelle qui malheureusement n'a pas permis de faire face à cette pollution massive de l'environnement.
Et justement, dans le siège des nombreuses avancées des droits de la nature dans le monde, vous avez décidé de mener une campagne, aussi à l'autre bout du monde pour créer une coalition d'acteurs pour la reconnaissance des droits de l'Amazonie. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cette démarche et comment s'est fait cette coalition?
Alors voilà, en Amazonie, il y a ce phénomène justement autour de l'orpaillage illégal qui sévit depuis des dizaines d'années et qui a malheureusement des conséquences en termes justement écologiques, mais aussi en termes humains extrêmement graves, avec un empoisonnement des populations locales au mercure qui est dramatique. Et justement, pour apporter un nouveau souffle en fait à la lutte sur le terrain, aux associations, notamment aux associations autochtones qui militent justement pour les droits des peuples qui sont directement victimes de cette pollution massive. Nous avons travaillé avec un groupe d'étudiants l'année dernière pour mettre en évidence justement les biais juridiques par lesquels nous pourrions faire valoir les droits des populations locales, mais également sur le biais du droit à venir, c'est-à-dire le droit de la nature pour lequel nous militons, en demandant justement à nos étudiants d'étudier, enfin d'analyser justement quel serait l'impact de la reconnaissance des droits de la nature pour la préservation de l'environnement. Et donc, nous avons réuni une coalition d'acteurs, notamment donc l'Association des femmes victimes du mercure, mais aussi l'Organisation des Nations autochtones de Guyane, l'ONAG, et l'Association Mayuri Nature Guyane et le collectif Hors de Question, pour justement collecter toutes les informations à notre disposition sur le sujet de l'orpaillage illégal et ses conséquences. Et l'objectif, c'est évidemment de fournir à cette coalition d'acteurs plus de données juridiques pour leur permettre d'agir en justice ou d'agir face à l'administration pour obtenir un renforcement des moyens de lutte contre le phénomène de l'orpaillage illégal.
D'ailleurs, entre la Convention citoyenne pour le climat qui a proposé de légiférer sur le crime de l'écocide, le Parlement européen qui a demandé à la Cour pénale internationale en janvier de reconnaître ce crime, ou encore la plus connue affaire du siècle, la jurisprudence de la Terre fait son chemin dans les institutions, ou en tout cas semble faire un peu son chemin. Comment expliquer que le droit soit de plus en plus mobilisé et investi pour répondre à cette crise écologique?
En fait, je crois que justement le droit est un outil extrêmement adapté en soi parce qu'il porte en lui aussi une volonté de réformer en profondeur et non plus par des petites actions en surface, mais vraiment d'avoir un impact sur les règles du jeu, celles qui finalement définissent notre contrat social. Et donc, l'objectif est vraiment d'avoir un bouleversement radical des règles du jeu pour pouvoir sortir de cette politique des petits pas, celle qui, on voit malheureusement, n'a pas su fournir des réponses suffisantes en fait à la crise climatique, mais aussi à l'effondrement de la biodiversité et toutes ces autres calamités environnementales auxquelles nous sommes confrontés actuellement, justement parce que notre droit n'était pas adapté, notre droit n'était pas suffisamment équilibré pour à la fois contenir les activités humaines les plus néfastes pour l'environnement et donc préserver notre capital écologique, si on pourrait le dire comme ça, pour les générations futures. Et aujourd'hui, donc, on voit une judiciarisation des luttes écologistes parce que justement, il semble que le droit devient l'arme, une arme en tout cas, fondamentale pour agir justement contre cette structure actuelle, ce modèle actuel qui n'est plus en alignement avec les valeurs de notre société. Et donc, le droit, en cela, il fournit une réponse juridique pour pallier à ces défauts actuels et pour recréer justement un nouveau modèle de société qui soit enviable, qui soit viable et qui soit donc durable pour trouver une forme de symbiose entre les lois humaines et les lois de la nature.
Justement, pour mettre en place ce nouveau modèle, est-ce qu'il n'y a pas des freins de nature politique, économique, institutionnelle ou culturelle aussi à la mise en place d'une réelle jurisprudence qui, justement, intègre les limites planétaires et la préservation de nos écosystèmes? Peut-être que d'après vos nombreux projets et expériences, vous avez peut-être des retours sur ces freins-là à identifier pour mieux les dépasser.
Alors, effectivement, il y a des freins politiques, ça c'est évident, puisqu'on voit par exemple les réactions du gouvernement face aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'est évident qu'il y a encore des blocages intellectuels de la part de nos élites qui sont encore trop frileuses à faire un vrai basculement de société vers une société qui soit véritablement respectueuse des limites planétaires. Alors que la société civile, elle, est extrêmement proactive, va de l'avant, réclame toujours plus de mesures. Et évidemment, ces freins politiques, ils sont liés à des diktats économiques, notamment le diktat de la croissance perpétuelle, celle qui, sans limite, du coup, aujourd'hui, on le voit malheureusement, nous conduit au dépassement des limites planétaires. Et donc, par exemple, dans le cadre de la reconnaissance du crime d'écocide, on a vu une montée au créneau des représentants des entreprises, notamment, et de Bercy, du coup, finalement combattre l'instauration du crime d'écocide en droit français. Et donc, on voit bien que, malheureusement, il y a une certaine forme de collusion entre, justement, les porteurs de cette économie traditionnelle qu'on a vue jusqu'ici, avec, justement, la recherche d'une croissance, d'un PIB qui serait toujours en constante augmentation, et ces politiques qui n'arrivent pas à se défaire finalement de ce diktat économique, et donc les institutions qui sont finalement bloquées dans leur travail de réforme et d'instauration d'un modèle plus vertueux. Mais au-delà de ça, on voit quand même qu'il y a une profonde modification une émergence en fait, notamment dans les milieux culturels aussi, et dans l'enseignement, de nouvelles valeurs qui sont enseignées notamment aux nouvelles générations qui sont extrêmement formées, en fait, extrêmement informées sur ces enjeux écologiques du siècle qui viennent. Et c'est peut-être par là, justement, grâce à la formation des générations futures et puis des générations actuelles, bien entendu, que on pourra justement finalement défaire ces grands, en fait, ces préjugés vis-à-vis justement d'un nouveau modèle écologique, et que nous pourrons instaurer, grâce à la culture, grâce à l'enseignement et grâce au droit, un nouveau modèle de société qui soit plus durable et plus respectueux justement de nos écosystèmes.
Justement, il y a aussi certaines initiatives en France qui veulent donner un statut juridique, qui en tout cas, ouais, veulent donner un statut juridique, pardon, à des fleuves notamment. Je pense à la Loire ou à la Seine qui est en projet, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a d'autres types de terrains de lutte comme ça en France, comme le fait de reconnaître un droit à un fleuve?
Alors, c'est extrêmement intéressant parce que justement, on se rend compte sur le territoire qu'il y a énormément d'initiatives pour les droits de la nature qui sont en train d'émerger. C'est un concept qui est déjà répandu au niveau international, mais on le voit, qui en France trouve vraiment une effervescence. Et donc, effectivement, il y a une réflexion autour du Parlement de la Loire, des élus parisiens se sont prononcés en faveur d'une réflexion sur les droits donner des droits à la Seine. Il y a également un appel qui a été lancé pour le Rhône. Vous voyez, il y a énormément, en fait, aujourd'hui, d'initiatives qui, comme ça, bourgeonnent un peu partout en France. On en compte plus d'une quinzaine. C'est pour ça que l'association Wild Legal et d'autres associations se sont regroupées au sein de ce qu'on appelle le réseau des initiatives pour les droits de la nature. que nous avons lancé le mois dernier et qui justement fédère ces initiatives au niveau français pour justement donner plus de poids et nous permettre justement de rentrer dans une phase de co-création, d'imagination de ce que pourrait être justement le mouvement des droits de la nature en France, avec des propositions concrètes qui devront être formulées pour justement améliorer le droit actuel qui est extrêmement anthropocentré et aller vers un droit qui soit justement plus biocentré, plus respectueux des lois de la nature. Et donc faire émerger en France de nouveaux projets de loi potentiellement et de nouvelles initiatives pour que dans le futur, justement, les droits de la nature puissent être reconnus comme c'est déjà le cas ailleurs, comme en Bolivie, en Équateur, en Nouvelle-Zélande et dans de nombreux autres États, justement.
Alors, il y a le récent réseau des initiatives pour les droits de la nature dont vous parlez. Est-ce que vous avez aussi d'autres projets pour 2021, voire 2022 au sein de Wild Legal?
Alors, évidemment, nous aimerions publier un nouveau petit manuel, cette fois à destination des gardiens de la nature, pour vraiment s'adresser en fait à ceux qui, justement, sur leur territoire, veulent faire émerger les droits de la nature, comment ils peuvent, avec les moyens actuels, se saisir de cette question-là et représenter les intérêts de la nature dans leur territoire. Et nous voudrions évidemment leur fournir également des pistes d'amélioration du droit pour, sur le terrain, pouvoir justement faire améliorer, que ce soit au niveau local des communes, mais aussi au niveau national, peut-être de la loi, justement, faire émerger de nouvelles propositions pour faire reconnaître concrètement les écosystèmes comme sujet de droit. Et puis, nous nous préparons évidemment au Congrès mondial pour l'UICN, au sein du mouvement mondial pour la reconnaissance des droits de la nature, qu'on appelle la Global Alliance pour les droits de la nature. Nous avons lancé un tribunal pour les droits des écosystèmes aquatiques. Et ce tribunal, donc, il a pour objectif justement de montrer des cas emblématiques de violation des droits des écosystèmes aquatiques. Chaque dernier samedi du mois et jusqu'à la fin du mois de mai, nous présenterons ainsi des cas de violation des droits des écosystèmes aquatiques en Europe. Donc, nous avons présenté samedi dernier un cas de violation des droits des glaciers, le cas de la mer de glace. Et puis, viendra donc le droit du fleuve Maroni en Guyane française, souillé par l'orpaillage illégal, mais aussi un cas de pollution d'un lac en Suède, le cas des barrages hydroélectriques dans les Balkans, et puis le cas donc de l'écocide et des boues rouges au large de Marseille en mai prochain. Et donc, pour se préparer au Congrès mondial de l'UICN qui se tiendra donc à Marseille en septembre, si la crise sanitaire nous le permet, nous allons préparer ces audiences et le rendu du jugement, donc composé d'un jury populaire, hein, sera rendu au mois de septembre 2021. Et donc ça fait partie évidemment de grands projets qui ont pour but en fait de mettre en lumière toutes ces violations des droits de la nature qui ont lieu en Europe et en même temps justement de tous les acteurs qui déjà sur le terrain se mobilisent pour faire face et pour proposer un changement de paradigme pour faire émerger en fait la reconnaissance des droits des écosystèmes aquatiques.
Et justement, pour finir, pour ceux, celles et ceux qui voudraient soutenir ces actions, comment s'investir pour les droits de la nature? Comment, même au sein de Wild Legal, contribuer et aider à porter ces projets?
Alors, en fait, au sein de Wild Legal, donc, nous sommes énormément de bénévoles. Donc, nous avons une équipe que vous pouvez rejoindre avec plaisir. Nous sommes à la recherche de tous les talents présents dans notre société, que vous soyez graphiste, que comptable, que vous ayez justement un background juridique ou non. Nous serions vraiment très heureux de vous accueillir au sein de notre association qui compte déjà près d'une vingtaine de bénévoles qui travaillent justement à faire reconnaître les droits de la nature. Nous avons de nombreuses campagnes et donc forcément, nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir au sein de l'association pour vous investir et relayer peut-être aussi tout simplement nos projets sur les réseaux sociaux. Pardon. Et donc, pour nous rejoindre, c'est très simple. Il suffit de nous écrire un mail à l'adresse donc contact@wildlegal.eu, donc wild comme sauvage en anglais et legal comme légal, ou nous contacter par exemple notre page Facebook et nous écrire donc directement par ce biais-là. Pour nous rejoindre, c'est vraiment très simple. Nous accueillons en chaque début de mois une réunion spéciale pour les nouveaux arrivants. Et donc, vous êtes les bienvenus, évidemment, pour participer.
Écoutez, merci beaucoup Marine Calmé et merci à Wild Legal pour ce podcast et surtout pour toutes ces riches actions menées pour faire évoluer les droits de la nature. Donc, comme vous venez de le rappeler, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Wild Legal pour plus d'informations ou du Felipe pour suivre aussi nos actualités. Et en attendant, merci à vous pour votre écoute.
Merci beaucoup.